À voix nue, Guillaume Erner, cette semaine avec...
Bernard-Henri Lévy. Je suis écrivain, philosophe et je fais des films.
Quatrième épisode, métier intellectuel. Bonjour Bernard-Henri Lévy.
Bonjour.
Merci de nous recevoir pour ce quatrième épisode d'À voix nue. J'aimerais que vous nous parliez de vos amours, de la manière dont ces femmes, puisque dans le premier épisode, vous nous avez dit que celles-ci vous avaient occupé une partie de votre esprit adolescent, quand vous êtes devenu adulte, comment ces amours se sont-ils conjugués ?
Ce qui est vrai, c'est que l'amour a occupé et occupe toujours une place importante de ma vie. Il y a des hommes, au fond, pour qui ça ne compte pas. Pour qui compte le pouvoir, la gloire. Quelqu'un comme Malraux, dont nous parlions hier, par exemple. Est-ce que l'amour a tant compté que ça dans sa vie ? Je n'en suis pas sûr. Quand vous regardez ses romans, il y a d'ailleurs peu de personnages féminins. Pour moi, ça a compté beaucoup. Voilà. J'ai été marié 3 fois, et cela a été et demeure une des très grandes affaires de ma vie. J'ai écrit par amour, j'ai parlé du diable en tête, il est incompréhensible, sans la rencontre foudroyante, à peu près à la même époque, avec celle qui est ma femme jusqu'aujourd'hui, qui est Ariel. Donc, ce qui est peut-être particulier, mais pas à moi, ce qui est particulier, je crois, aux écrivains, c'est que les deux sont mêlés, et qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de frontière infranchissable entre l'œuvre et cette partie-là de la vie. C'est probablement deux énergies qui se ressemblent, qui sont presque de même nature. L'énergie amoureuse et le désir d'écrire. J'ai toujours pensé que c'était des désirs assez voisins. En tout cas, c'est la même sorte de libido qui s'investit dans les deux.
Quelques mots sur les femmes qui ont compté dans votre vie, Bernard-Henri Lévy.
Elles ont compté. Voilà, elles ont compté. La maman de ma fille, qui est morte il y a bientôt 20 ans cette année, l'un des derniers personnages surréalistes des années là, comme ça, 60, 70, elle a évidemment compté immensément. La maman de mon fils, Sylvie, pour laquelle j'ai dû écrire La Barbare et Visage Humain en grande partie. Celle qui. La rencontre décisive, la rencontre magnétique, celle dont on ne se remet pas, celle qui se rejoue tous les jours, Ariel Dombasle, voilà. Donc, que vous dire d'autre ? Sinon que ce fut toujours capital pour moi, que cela ne fut jamais étranger à mon travail d'écrivain, voilà.
Peut-être un mot sur Ariel Dombasle, parce que c'est un personnage public, mais bien entendu, pour vous, c'est un personnage privé. La différence qu'il y a, le fait que c'est une femme, je vais utiliser le terme le plus neutre possible, qui n'est pas banal. C'est un homme qui n'est pas banal non plus, mais voilà, j'aimerais que vous m'en disiez un mot.
Je suis tombé amoureux d'elle en voyant un film qu'elle avait réalisé, qui s'appelle Chassé-croisé, que peu de gens ont vu, peut-être, qu'elle avait écrit... réalisé, dont les acteurs principaux étaient Pierre Clémenti, Alexandra Stewart, François-Marie Bagnier, Éric Rohmer, qui jouait dans son film, Pascal Grégory, dont ça devait être probablement un des premiers rôles. Et là aussi, je me suis dit, au fond, l'héritage du surréalisme, l'héritage de Cocteau, la dernière de cette lignée-là, ben, c'est peut-être cette jeune femme. Il y avait... une concentration d'imaginaire, de mémoire, de style, de mystère aussi, absolument sidérante. Voilà. Puis j'ai rencontré la personne qui était à la hauteur de son propre mystère. C'est pas facile de ne pas s'engloutir dans sa propre singularité. Et c'est pas facile de rester généreuse aussi. C'était le cas.
Vous avez 2 enfants, Bernard-Henri Lévy. Quel père êtes-vous ?
Je ne sais pas, c'est à eux qu'il faudrait poser la question. En tout cas, je suis un père fier de ce que font mes 2 enfants. Ma fille, je sais de quoi je parle parce qu'elle est écrivain. Et c'est un écrivain magnifique que j'admire et dont je regrette d'ailleurs qu'elle n'écrive pas davantage. Mon fils, je sais moins de quoi je parle parce qu'il est un grand avocat, mais je vois la façon dont il se déploie, la façon dont il a peut-être d'ailleurs évité le règlement de compte édipien avec son père en allant dans des régions si différentes au fond des miennes. C'est un personnage magnifique, d'une bonté et d'une rigueur morale et d'une intelligence extrême. Et puis deux, il y a quelque chose d'assez romanesque dans le rapport qu'il a décidé un beau jour, adolescent, d'instaurer avec moi. En gros, il était parti pour faire l'école normale. Et puis, de manière très énigmatique, un beau jour, il a fait une espèce de tête à queue. Et avec un entêtement de petit garçon en train de grandir, il est venu me le dire, il s'est entêté, il n'a même pas accepté de discuter, mais dit « je veux devenir avocat ». Voilà, je veux pas devenir professeur, je veux pas devenir écrivain, je veux pas faire l'école normale, je veux devenir avocat. Puis j'ai tardé à comprendre la magnifique manœuvre de vie qui consistait à contourner autant que possible le choc édipien, c'est-à-dire en gros, je suis moins bon que mon père, c'est compliqué, je suis meilleur que mon père, c'est également très compliqué, je vais ailleurs, voilà.
Vous vivez en famille, en groupe, en bande, solitaire, Bernard-Henri Lévy ?
Je vis pas très en famille, non. Non, je vis pas très en famille. Je vis pas très en groupe non plus, je crois pas. Non, comme tous les gens qui travaillent beaucoup et comme tous ceux qui travaillent beaucoup dans les livres, quoi. Moi, ma bibliothèque dont nous parlions dans notre toute première conversation, c'est ma maison, quoi. Ma bibliothèque, hein. Cette espèce d'édifice invisible que constituent les livres que vous avez lus, ceux que vous n'avez pas encore lus, ceux qui sont là et qui attendent d'être lus, et ceux que vous ne lirez jamais, et vous le savez, tout ça, c'est mon habitacle, quoi. C'est ma demeure, je demeure là. Donc quand on demeure là, on est plutôt seul. En tout cas, je suis plus seul que l'imaginent ceux qui me voient comme je ne sais quoi.
Il y a également un rôle, une fonction, qui devient progressivement la vôtre durant les années 80 et à coup sûr durant les années 90, un intellectuel engagé. Est-ce que c'est ce rôle-là, finalement, que vous voulez tenir, ce rôle qui vous tient le plus à cœur, Bernard-Henri Lévy ?
Aujourd'hui, oui. Dans cette espèce de guerre civile mondiale, dans cette catastrophe de moins en moins suspendue et en train de se précipiter, qu'est le cours du monde ? Dans cette époque de nihilisme généralisé et de décomposition partout, le rôle, oui, de l'écrivain engagé, c'est celui que je préfère probablement tenir. Alors, dans un temps plus pacifique, j'adorerais écrire des romans d'amour ou écrire de la philosophie pure. Je crois que je saurais faire ça aussi et que j'y prendrais du plaisir. Mais aujourd'hui, face à ce qui se passe en Ukraine, face à ce qui se passe en terre d'islam, face à ce qui se passe aux États-Unis ou au Brésil, etc., c'est vrai que j'ai envie de faire entendre ma grande gueule. Et ça s'appelle un écrivain engagé.
Ce qui se passe en terre d'islam, c'est un sujet que vous avez abordé tôt dans votre œuvre. C'est un sujet que vous avez retrouvé de manière progressive dans La pureté dangereuse, donc en 1994, 4 ans après, avec une conversation avec Salman Rushdie. Pourquoi ce choix ? Est-ce que l'Algérie, le Maroc, est-ce qu'un choix géopolitique parmi les problèmes du monde vous y a incité ?
Sûrement, puisque j'ai passé mon temps à vous dire au fil de ces conversations que tout ça n'est pas démêlable et que voilà, on peut pas, comme le contre Sainte-Beuve, faire semblant de croire qu'il y a des pièces étanches dans la maison de votre cerveau. Mais pas que ça, en 1993-14, il y a les grands massacres en Algérie, les massacres djihadistes, commis par les djihadistes. Je fais une série de reportages pour Le Monde. Il y a eu la révolution iranienne, 10-12 ans plus tôt. Et je sens qu'il y a là un troisième totalitarisme en marche. Oui, qu'il y a là une troisième version de ce que j'appelle la volonté de pureté. Ce que je produis en 94, c'est un concept, volonté de pureté, qui permet de penser à la fois ce qui rapproche et à la fois ce qui sépare les trois grandes barbaries contemporaines. La barbarie nazie, la barbarie stalinienne et la barbarie islamiste. Voilà, la volonté de pureté, la volonté d'une, en gros, d'un monde, d'une société émondée, élaguée de ce que Lénine appelait les insectes nuisibles, ce que les hitlériens appelaient les poux, et de ce que les islamistes radicaux doivent appeler les infidèles ou les étrangers à l'Oumma. Voilà, donc il y a aussi ça, une démarche conceptuelle.
Mais alors, la question, c'est que, bien entendu, on a affaire à trois phénomènes qui sont hétérogènes. Comment les rassemblez-vous, alors même que...
La tâche de la pensée, face à des phénomènes hétérogènes, c'est de penser ce qu'il y a de commun et ce qu'il y a de différent. Si on n'essaie pas de voir, entre les trois phénomènes en question, ce qu'il y a de commun, on pense pas. Voilà. Et puis, si on ne voit pas ce qu'il y a d'hétérogène, on réduit, on aplatit et on pense pas non plus. Donc c'était ça l'effort de la pureté dangereuse, et c'était ça que j'espère avoir un peu accompli en proposant ce concept de volonté de pureté. Il y a la volonté de puissance de Nietzsche, il y a la volonté de guérir de Michel Foucault, il y a, je sais pas, peu importe. Là, je propose un concept qui permet de rendre compte à la fois des différences et à la fois des ressemblances entre les trois barbaries.
Mais la volonté de qui, puisque... Depuis 1979, révolution iranienne, jusqu'à aujourd'hui, les mollahs sont toujours là. La manière dont ces régimes, qui sont des régimes évidemment très éloignés du modèle démocratique, Bernard-Henri Lévy, se sont maintenus. Ils se sont maintenus pourquoi ? Comment ? Est-ce que les peuples sont des peuples uniquement asservis ou est-ce qu'ils ont fait aussi ?
Non, parce que la volonté de pureté, puisqu'on en parlait, est un désir puissamment enraciné chez les humains. Les totalitarismes font appel à des pulsions très intimes et très universellement partagées. Vous savez, je sais pas, par exemple, le communisme jouait beaucoup sur une passion très fondamentale qui est le juvénisme, la jeunesse du monde, tout recommencer, on arrête avec les vieux, on arrête avec la mémoire, on casse l'histoire en deux. C'est pas rien. C'est quelque chose de très exaltant, peut-être, sûrement même d'ailleurs, et j'y ai moi-même cédé. Les fascistes y jouent sur le désir jusqu'à la caricature et jusqu'au crime de faire commun, de pas être seul, de constituer une foule en mouvement organique et qui fasse sens. Ça, c'est aussi une passion qui est très profondément enracinée chez beaucoup d'humains. S'ils font pas l'effort sur eux-mêmes de comprendre comment cette passion peut être mortifère, ben, elle opère. Et dans l'islamisme radical, l'idée d'un texte impeccable, dicté par Dieu, auquel les humains n'ont pas le talent, la force ou la légitimité nécessaire pour les toucher, c'est une idée qui peut séduire aussi. Bref, le fascisme, il est séduisant. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle la démocratie, en revanche, elle est laborieuse, elle est difficile, elle prend du temps... Et elle prend de l'énergie, de l'esprit.
Mais, par exemple, dans cette série que vous aviez fait pour Le Monde, qui avait effectivement eu beaucoup d'écho au sujet de l'Algérie en 1994, il faut rappeler aux plus jeunes qui nous écoutent que l'Algérie était alors ensanglantée par des attentats présentés comme islamistes. Je dis présentés parce que, finalement, on était à un moment indémêlable. Il y avait d'un côté les islamistes, de l'autre côté les militaires encore au pouvoir en Algérie. Est-ce que, finalement, on a affaire à deux camps dans lesquels... Mais c'est à vous que je pose la question, Bernard-Henri Lévy. Il est difficile de trancher.
Ah non, pour moi, il n'était pas difficile de trancher. En effet, ça a été un très vif débat dans ces années-là. J'ai jamais cru à cette théorie complotiste des militaires déguisés en islamistes et qu'on reconnaissait encore à leur godasse et qui, en réalité, faisaient couler le sang pour plonger l'Algérie dans la guerre civile. J'ai jamais cru à ça. Je crois que l'islamisme est et était déjà à l'époque une puissance en pleine force, en pleine possession de ses moyens, en pleine expansion, et qui n'avait pas besoin de complot de militaires pour l'accélérer. Donc je ne crois pas du tout. Alors après, je ne dis pas que le régime des militaires algériens était... la question n'est pas là, et on voit aujourd'hui le résultat. Mais l'islamisme radical, cette volonté de créer une Oumma débarrassée de tous ces corps étrangers, tout ça est effroyable... et n'a pas besoin de manigances ou de marionnettistes pour embraser dans au Pakistan, en Algérie autrefois, en Afghanistan, des foules entières, chez les talibans.
N'a-t-on pas affaire à deux mots mais alors justement, c'est à vous que je pose la question, est-ce qu'on peut les hiérarchiser? D'un côté les islamistes, de l'autre côté, une dictature militaire, Bernard-Henri Lévy?
Écoutez, la dictature, c'est la dictature. Mais il y a quand même une différence entre les deux. C'est que la dictature militaire, ça peut s'effondrer. Parce qu'elle ne s'appuie pas sur ces passions fondamentales dont je vous parlais tout à l'heure. Une dictature militaire, comme son nom l'indique, c'est une dictature. Ça marche à la trique, ça marche à la menace, ça marche au bain de sang, parfois. Les peuples peuvent se révolter contre cela. Et on le voit constamment. L'islamisme radical, ça a ce point commun avec le communisme, avec le fascisme, qu'encore une fois, ça prend appui sur des ressorts très profondément partagés et très profondément enfouis dans les âmes. Et il n'y a pas forcément besoin de matraque, il n'y a pas forcément besoin de violence. Et donc, c'est beaucoup plus tenace et ça tient beaucoup plus au corps et à l'esprit des hommes.
L'un des crimes de l'islamisme sur lequel vous êtes penché, Bernard-Henri Lévy, c'est la mort de Daniel Pearl. Qui a tué Daniel Pearl? C'est un livre que vous avez publié en 2003. J'aimerais que vous nous rappeliez qui était Daniel Pearl et dans quelles circonstances vous avez écrit ce livre, ce que vous disiez dans cet ouvrage.
C'est assez simple. Les talibans viennent de tomber à Kaboul. Et Jacques Chirac et Lionel Jospin, Premier ministre, il m'envoie en Afghanistan et il me charge d'une mission qui consistait à étudier ce que la France pouvait faire pour reconstruire l'Afghanistan. Donc je sillonne l'Afghanistan et j'en rapporte un rapport publié par la documentation française à l'époque que je remets solennellement, comme on fait, à Chirac et à Jospin. Et puis, dans le cours de cette mission, peut-être en janvier, peut-être, 2002, je suis dans le bureau du président afghan de l'époque, Hamid Karzai, et on lui apporte la nouvelle. Qu'un journaliste américain qui s'appelle Daniel Pearl, dont on savait qu'il avait été enlevé depuis quelques semaines, venait d'être décapité. J'ai quasiment jamais entendu parler de ce journaliste. Je ne le connais pas. Et je reçois cette nouvelle comme une espèce de choc très étrange, personnel et physique. Et j'appelle mon éditeur Olivier Nora et je lui dis, voilà, je vous informe, je vais abréger ma mission en Afghanistan, je vais partir au Pakistan voisin et je vais faire un livre qui va s'appeler « Qui a tué Daniel Pearl ?». Mon ami et éditeur Olivier Nora, il est comme moi, il sait pas bien qui est Daniel Pearl, ça a fait 4 lignes dans les journaux. Il me dit « Vous êtes vraiment sûr que c'est le bon choix ?» Je lui dis « Écoutez, je peux pas faire autrement. » Il me dit « Vous êtes sûr qu'il n'y aura pas, moi connaissant les Américains, 12 prix Pulitzer qui vont se pencher sur l'enquête ?» Je dis « Écoutez, ça n'a pas d'importance. » Je dois faire ce livre. Je sens que l'histoire de ce journaliste américain et juif et ami du monde, ami de l'islam, pas en guerre de civilisation avec personne, c'était ça Daniel Pearl, je sens que cette histoire me concerne. Voilà. Et puis donc j'ai plongé dans ce monde bizarre, Karachi, Islamabad.
Qu'en retirez-vous ?
J'en retire au fond le premier livre, me semble-t-il, l'un des premiers livres sur Al-Qaïda. Parce que qui a tué Daniel Pearl, c'est une enquête sur Al-Qaïda. J'en retire deuxièmement l'idée qu'il y a vraiment un pays qui est le plus voyou des États voyous avec lequel l'Occident entretient des relations, et notamment les États-Unis, des relations d'amitié incompréhensibles et coupables, qui est le Pakistan. Pays gangréné par les islamistes, avec des services secrets gagnés à la pensée radicale et des armements nucléaires. Enfin, moi, je vois à Karachi, à Islamabad, des manifs dans les rues, avec en tête de manif des photos des têtes nucléaires des missiles pakistanais. Là, je me dis, il y a quand même une chose immense qui se passe. Et face à ça, George Bush Jr. qui lance la guerre en Irak. Erreur de tir absolue. Se tromper d'ennemi à ce point-là, j'en tire que c'est pas possible.
C'est-à-dire que Daniel Pearl, en fait, c'est ce que vous présentez, est un signe annonciateur d'une déferlante qui va suivre.
Je pense qu'il y a 3 signes annonciateurs. L'époque nouvelle, elle s'ouvre avec 3 coups. La mort du commandant Massoud, le 9 septembre 2001. L'attaque contre World Trade Center, le 11 septembre 2001. Et début 2002, la mort de Daniel Pearl. Pour moi, il y a là une séquence tragique, qui est la vraie ouverture de ce 21e siècle horrible qui ne se décide pas à expulser ces fantômes.
Et alors, lorsque l'on prend vos différents livres, les articles, puisque vous écrivez dans la presse, notamment dans Le Point, votre revue, vous avez une revue, La Règle du Jeu, il y a, par exemple, une discussion qui s'étend avec trois noms, on va peut-être les décrire en quelques mots, Kojèv, Fukuyama et Huntington. C'est ce qui rassemble, en quelque sorte, votre réflexion à cette époque et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Peut-être quelques mots sur ces trois noms et la raison pour laquelle vous avez choisi de discuter avec Bernard-Henri Lévy.
Huntington, c'est l'homme du clash des civilisations. C'est l'homme qui pense que les civilisations sont des gros blocs fermés sur eux-mêmes et hétérogènes. Je déteste cette idée. Je pense qu'elle est fausse. Je pense que ce qu'il y a de grand dans l'humanité, c'est que les civilisations, aussi singulières soient-elles, sont capables de se parler, sont capables de se marqueter les unes les autres. Vous avez un élément de telle civilisation qui peut voyager et venir prendre une nouvelle racine et une nouvelle place dans une civilisation étrangère. Voilà, par exemple. Je ne sais pas si la démocratie est une idée qui a autant d'histoire dans le monde arabo-musulman qu'en Europe, mais je pense que l'idée de démocratique tocquevillienne, elle peut quitter l'Europe et venir trouver sa place dans une configuration discursive qui est celle qui règne dans des pays arabo-musulmans. Voilà, donc je crois à ça. Je crois qu'Huntington se trompe parce qu'il pense que les situations ne peuvent pas se parler. Bien. Kojèv et Fukuyama, c'est la deuxième pensée qui a dominé les 20 premières années du 21e siècle. Je pense qu'ils se trompent dans leur idée d'une histoire arrêtée, d'une histoire où il ne se passera plus rien de décisif, d'une histoire qui se contentera de rejouer les remakes du 20e siècle. Moi, j'essaie d'être attentif depuis 20 ans, 30 ans, à ce qui, justement, n'est pas remake, hein. À l'invention historique. Et je crois qu'il y a de l'invention. Je crois qu'il y a des courants politiques nouveaux. Il y a des molécules idéologiques qui se constituent. On parle de l'islamisme radical. Justement, c'est pas juste le retour du fascisme. C'est autre chose. Ben, il faut savoir quelle autre chose c'est. Et ça, les pensées de la fin de l'histoire ne permettent pas de le conceptualiser.
Alors, je vais dire une chose et son contraire, mais c'est le privilège de celui qui pose les questions. Première question à cet égard, Bernard-Henri Lévy. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment désespérant que finalement, quelles que soient vos actions en tant qu'intellectuel ou plus généralement les actions que peut mener le monde occidental, une partie du monde s'enfonce dans la guerre, l'obscurité. Je pense évidemment aujourd'hui à l'Afghanistan, mais aussi à l'Iran, on pourrait évoquer la Syrie. Bref, est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement, ne voudrait pas mieux écrire, je ne sais pas, des romans d'amour? Je n'ai rien contre les romans d'amour, d'ailleurs.
Non, je ne pense pas cela. Le juif en moi, celui qui a essayé d'instruire le procès du progressisme béat, sait qu'il y a quelque chose d'irrémédiable, en effet, dans les affaires humaines, que les sociétés sont incurables et qu'il n'y a pas de solution. Ça, je le sais. Le Messie, il faut l'attendre et puis il faut savoir qu'il ne viendra pas. Et donc une société merveilleuse où tous les méchants auraient été éliminés, je sais que ça n'existe pas. Et puis je suis assez convaincu de tout ce que je vous ai dit sur les bêtises jumelles de la pensée progressiste et de la pensée réactionnaire de Marx et de Spengler, mettons, me fait penser que l'histoire, en effet, c'est des retours en arrière, c'est des embardés, tout ça, c'est clair. Et il y a là quelque chose de décourageant. Pourquoi je suis jamais découragé maintenant? Parce que je sais qu'il y a aussi des points de lumière partout. Évidemment que quand je vois les talibans qui reviennent et Daesh et Al-Qaïda dans leur fourgon, je me dis mais j'ai labouré la mer depuis 30 ans. Hein. Mais quand je pense aux jeunes femmes afghanes qui ne se résignent pas à ne plus aller à l'école, qui avec un courage inouï défient les talibans en descendant dans la rue, quand je vois ce qui se passe ces temps-ci, en Iran, avec ces femmes et ces hommes qui, là encore, défient le pouvoir des mollahs, ben je me dis que la part de lumière, elle est aussi là et qu'elle est inextinguible. Donc, c'est un combat entre les deux. Et la tâche d'un intellectuel, c'est d'appuyer autant qu'il le peut, avec ses maigres forces ou ses grandes forces, les puissances de résistance, voilà, sans nourrir l'espoir béat que ça va triompher et une fois pour toutes. Bien sûr que non.
Alors maintenant, je vais évidemment vous faire l'objection contraire. Bernard-Henri Lévy a trop de pouvoir. Vous avez, au contraire, eu la possibilité de trop agir sur l'histoire. Par exemple, en Libye, c'est une objection, une critique qui vous est faite. Que répondez-vous, Bernard-Henri Lévy, à ce type de...
Je suis très fier de ce que la France a fait en Libye à l'époque. Et je suis très fier d'y avoir un peu contribué. Voilà, je pense que...
Un peu, beaucoup, d'après vous ?
Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai désiré cela. J'ai désiré qu'un pays occidental et quelques-uns disent au peuple d'un pays dont on avait toujours soutenu les dictateurs, vous aussi, si vous voulez, vous êtes fait pour la démocratie et pour le droit. Vous aussi, vous pouvez ouvrir la porte. Après, que vous y entriez ou pas, ça, on verra. Mais il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas d'hétérogénéité des civilisations. Je suis très fier que la France et la Grande-Bretagne aient dit ça à l'époque. Nos pays ont passé leur temps, dans le reste du monde, à soutenir les dictatures, à penser que la démocratie, c'était trop dangereux et trop risqué, et que laisser les peuples sous la botte, au moins, ça nous foutait la paix. Moi, ce discours me révolte. Faire le geste inverse en disant « la démocratie est une chance » à laquelle quiconque peut se risquer, à charge pour lui de l'embrasser vraiment ou à demi, ou de ne pas l'embrasser du tout au bout du compte, cette démarche-là, elle est noble, elle est juste, c'est un beau geste occidental.
Mais justement, Bernard-Henri Lévy, lorsque vous évoquez la question libyenne, est-ce que cette question libyenne, elle ne peut pas aussi aboutir à une forme de chaos ? Le chaos que l'on a sous les yeux est donc considéré finalement que le statu quo était préférable à cette situation actuelle.
Moi, ce qui me fait honte, c'est la situation syrienne. Le chaos, c'est ce malheureux pays, la Syrie, vidé de ses habitants, décimé. Voilà. Et ça, c'est le résultat du fait qu'on s'en est lavé les mains. Qu'on a pensé qu'il fallait laisser Bachar el-Assad être charbonnier, maître chez soi. Donc la vraie question, quand on est face à des choix de ce genre, c'est pas quelle est la solution idéale, c'est quelle est la moins mauvaise des solutions. Mais moi, je vous affirme que l'ingérence démocratique en Libye, ça a fait beaucoup moins de mal et ça a fait beaucoup plus de bien que la non-intervention hypocrite, cruelle, cynique en Syrie, qui, elle, a vraiment plongé le pays, la région, dans le chaos.
Merci, Bernard-Henri Lévy. À demain. C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Hervé Dubreuil, réalisation Félicie Faugère, une série de Guillaume Erner à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.